Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Et on va revenir tout de suite dans Estelle Midi sur l'appel du jour. C'est celui de l'éducation nationale envers les recteurs d'académie. Le ministère souhaite en effet une plus grande fermeté face à la recrudescence des tenues religieuses à l'école, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Des appels à la prière ont même été observés dans certains établissements, Alfred Orange.
Oui, plusieurs notes ont été adressées aux 37 recteurs et rectrices d'académie avec un mot d'ordre, la vigilance face à cette recrudescence des tenues ostensiblement religieuses à l'école. Pour rappel, depuis 2004, la loi interdit les signes et tenues religieuses dans l'enceinte scolaire. C'est l'Académie de Paris qui a notamment été la première à alerter sur la multiplication de tenues islamiques pendant le Ramadan en avril dernier. Les rapports faisaient état d'élèves se rendant en cours en abaya ou en camis, des tuniques religieuses qui se portent au-dessus des vêtements et qui sont assimilées à des courants rigoristes de l'islam. Et l'inquiétude est ravivée en cette rentrée, Estelle, par le recteur de Dijon lui-même qui a signalé au ministère des appels à la prière dans les couloirs d'établissement ou encore des chantages à la photo entre les élèves, des défis où en fait certains élèves prennent en photo des jeunes femmes musulmanes sans voile dévoilées pour les faire culpabiliser et les humilier. Le ministre de l'Éducation ne s'est pas encore publiquement exprimé sur le sujet, mais le ministère prend ce sujet très au sérieux.
Alors, doit-on vraiment s'inquiéter de cette recrudescence? Je vais commencer avec vous, Laurent Dandrieux.
Oui, je pense qu'il faut être très très vigilant là-dessus. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que on a souvent tendance à dire, mais après tout, si les jeunes veulent s'habiller de telle ou telle façon, pourquoi pas? Comme si c'était uniquement une affaire de comportement individuel. Moi, j'ai lu une très intéressante enquête que nos confrères de l'Express ont publiée, qui montre bien que derrière ces comportements individuels, il y a tout un tas de sites islamistes plus ou moins affichés, notamment sur des sites très regardés par les jeunes comme TikTok, où des influenceurs islamistes expliquent aux jeunes l'importance de porter ce type de vêtements à l'école, comment recourir à des petits trucs pour que on met une ceinture par-dessus le vêtement pour dire que c'est juste une histoire de mode et que c'est pas un truc du tout religieux. Et donc il y a effectivement, on voit bien dans cette affaire qu'il y a derrière ces histoires soi-disant de comportement individuel, en fait une stratégie de conquête menée par les milieux islamistes pour transformer l'école en un milieu de propagande. Et donc je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait cette prise de conscience. Le ministre lui-même avait il y a quelques semaines, début septembre je crois, fait des déclarations un peu désinvolte en disant que tout ça était assez marginal, mais apparemment ses services,
ça l'est de moins en moins,
les services de son ministère sont plus réalistes que lui et ont pris la conscience du problème, et donc il va falloir réagir de manière très ferme.
Comment réagit justement Emmanuel Dancourt à ça? Parce que il y a la loi évidemment, mais on fait quoi de ces jeunes filles ou de ces jeunes garçons qui ne respectent pas la loi? On les renvoie chez eux, on fait quoi?
Alors ça, c'est une vraie bonne question, merci de l'avoir posée. Moi, j'ai beaucoup regardé, justement, parce que c'est une vraie question. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Et il se trouve que nous, à Dijon, on a un recteur qui est spécialiste de ces questions-là, qui est arrivé au mois de mars, Pierre Ngahan. Et je me suis beaucoup inspirée de ce qu'il fait lui, de ce qu'il dit lui, et notamment de ce qu'il a pu dire, mais pas que lui, lors d'une commission d'enquête qui avait eu lieu en 2015. Souvenez-vous, en 2015, il y avait eu la fameuse minute de silence de Charlie Hebdo qui n'avait pas été respectée dans tout un tas d'établissements scolaire par un certain type d'enfants et de collégiens de lycéens. Et cette commission d'enquête était donc sur le fonctionnement service public de l'éducation, sur la perte des repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires. C'est de moins en moins marginal. Et quelqu'un comme Pierre Ngahan alerte là-dessus, participe à des commissions d'enquête, mais est aussi sur le terrain, notamment à Dijon. Il y en a encore cité aussi en Bourgogne, un collège, je ne sais pas où il est, mais qui a eu des soucis. Je pense qu'à un moment, il faut prendre des mesures fermes, parce qu'il y a la loi, et puis quand la loi elle est pas appliquée, c'est difficile de renvoyer les enfants. On peut peut-être accompagner avec du dialogue.
Ah bah donc c'est de la pédagogie, et pas de la fermeté.
On peut faire les deux en même temps. Peut-être on peut déjà peut-être commencer par demander aux parents de venir discuter, puis quand le dialogue est impossible, trouver une solution, parce que là on va pas.
Ah, souvent les parents sont au courant, ils voient quand même leurs enfants sortir de chez eux le matin.
Bah, ils sont plus qu'au courant parce qu'ils sont à l'origine en réalité.
Oui, certainement. Enfin peut-être pas à chaque fois, mais enfin ils voient leurs enfants sortir de chez eux, donc ils voient comment leurs enfants sont habillés, ils connaissent la loi.
Donc, faudrait être ferme, mais en même temps, dire à un enfant on va t'exclure 3 jours, je trouve ça très très dur, oui, parce qu'un enfant il a le droit aussi de recevoir son éducation.
Oui, mais si tu contreviens à la loi,
je serai du côté de la loi toujours. Donc si tu contreviens à la loi, au bout d'un moment, un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, exclusion 3 jours, exclusion définitive.
Alfred Roche, on a des chiffres sur le nombre d'incidents, justement.
Oui, repéré l'année dernière, ce qui s'en occupe, c'est le service central du renseignement territorial. 144 incidents relevés l'année dernière, surtout sur du port du voile, des portes de tenue à consonance islamiste, des refus d'aller à la piscine. Et d'après ce rapport qui a été rendu en fin d'année, il y a aussi toute l'influence des réseaux sociaux et aussi des séries Netflix s'est pointé noir sur blanc.
Ah bon ?
Parce que ce seraient des séries qui encourageraient certaines séries qui encourageraient les jeunes à affirmer leur personnalité, leur appartenance religieuse, et que ça effectivement désinhiberait un peu les jeunes une fois dans les salles de cours.
Est-ce que la solution, Pierre Rondeau, serait pas l'uniforme? Parce que c'est vrai que c'est aussi compliqué. Non, mais il faut se mettre à la place des gens, vous savez, devant les portails des lycées. C'est-à-dire que vous voyez une fille arriver avec une robe très ample, qui va vous dire, bah non, mais c'est pas du tout un signe ostentatoire, c'est une robe très ample. Alors là, vous allez devoir discuter avec elle, etc. Et parlementer. Donc c'est compliqué pour vous qui êtes à la porte du lycée. Alors que si c'était l'uniforme, je veux dire, la solution, elle est simple pour tout le monde.
Vous avez totalement raison, on est parfaitement en droit de se poser la question et de se demander si ça serait pas la solution. Parce qu'on se demande quelle solution face à ces problèmes,
ces cas.
Est-ce qu'on fait de la fermeté? Alors la fermeté, est-ce qu'on pourrait interdire d'avoir accès à l'école pour ces enfants-là? Est-ce qu'on fait de la pédagogie? Mais ça prendra du temps, et on sait que malheureusement ces cas augmentent et sont aujourd'hui une évidence. Même si on pourrait quelque peu relativiser le poids, parce que voilà, 144 cas relevés, c'est beaucoup, et je dis pas le contraire. Rappelons qu'il y a 60 000 écoles en France.
Bien sûr.
144 sur 60 000. Mais ça reste tout de même inquiétant pour ce qu'est et ce que signifie la laïcité en France et le respect de la République et des codes républicains, si je puis dire. Donc oui, la solution, l'une des solutions qui pourrait être mise sur la table et sur le dossier et sur le débat, c'est pourquoi ne pas revenir à une forme non peut-être d'uniforme ou de tenue standard ou standardisée pour accorder quelque peu de liberté à ces jeunes collégiens ou lycéens. Mais bien évidemment qu'on n'est pas vraiment, on n'oppose pas respect de la République au respect
des convictions
religieuses et des croyances.
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez le droit de porter de voile dans les espaces publics ou ailleurs, dans la rue ou chez vous. Mais à l'école, il y a une loi qui existe, vous l'avez dit, depuis 2004. Vous devez la respecter. Et ce n'est pas aller à l'encontre de vos convictions religieuses de vous demander simplement de respecter une loi qui a été votée et appliquée depuis 2004.
Il y a aussi les problèmes à la cantine aussi.
Il y a aussi les problèmes à la cantine, sur l'alimentation des enfants. Servis, sur les sorties scolaires, sur les sorties à la piscine. Il y a beaucoup de problèmes. Et moi, ce qui me dérange en fait dans ce sujet, c'est qu'on entend justement les différents recteurs et différents rectorats demander ce qu'on doit faire auprès du ministère, comme si le ministère
n'avait pas la loi.
Mais oui, soit. Mais justement, ça a été posé comme problématique. On connaît la loi, qu'est-ce qu'on fait si une fille, si une collégienne lycéenne arrive avec une tenue religieuse? On lui ferme les portes?
Concrètement, là maintenant, on fait quoi?
Ce qui est grave de la part du ministère et peut-être de Papendia et le ministre de l'Éducation, c'est de pas avoir pris la portée du problème, la hauteur du problème, et à anticiper finalement les réponses à apporter.
Parce que finalement, le débat sur la marginalité du phénomène est important, parce que
une chambre d'écho par les réseaux sociaux.
Voilà, qui ont peur d'agir ou trouvent trop risqué politiquement d'agir ont tendance à insister sur la relative rareté du phénomène et donc sa marginalité. Mais en fait, ce qui se passe...
Ça s'appelle le syndrome du couvercle.
Oui,
c'est pointé dans la commission d'enquête dont je vous parlais.
Et effectivement, le problème, c'est que si on ne résout pas les problèmes à un moment où ils sont un peu marginaux, on les laisse monter en puissance et on arrive à un stade où on ne peut plus les résoudre parce qu'il est déjà trop tard.
Vous avez des messages, Alfred.
Oui, ça réagit beaucoup. Une solution qui est proposée par Lenny, qui dit pourquoi ne pas leur donner une surblouse qui masquerait leur tenue d'une couleur ridicule tant qu'à y être. Si jamais ils arrivent,
On fait, on est dans une république. Chaque homme et femme n'est libre et égaux en droit. Tout le monde devrait porter cette blouse d'une couleur exécrable.
Allez, on est avec Philippe Ballard, c'est notre invité sur ce sujet. Il est député RN de l'Oise. Bonjour Philippe Ballard.
Bonjour.
Alors j'imagine que vous vous réjouissez, Philippe Ballard, du fait que l'éducation nationale demande une plus grande fermeté à ses recteurs d'académie.
Ah ben on s'en réjouit pas, non, parce que là on est devant. On se réjouit, mais vous vous souvenez, en 2004, il y a eu un rapport fait par Monsieur Aubin. Monsieur Aubin, c'était un inspecteur général de l'Éducation nationale. Ça fait 18 ans. Et tout ce qu'on vit actuellement, il le pointait du doigt. Il l'écrivait noir sur blanc. Mm-hmm. Tous les ministres de l'Éducation qui se sont succédés, de droite, de gauche, du centre, ont mis la poussière sous le tapis, n'en ont pas tenu compte. Alors maintenant. Ben oui, on paye l'édition.
Il y a une loi quand même, Philippe Ballard. Alors,
oui, mais qui n'est pas respectée, la loi de 2004, oui, qui interdit le port de signes religieux ostentatoires. Et là, moi, j'écoute votre débat depuis tout à l'heure, très intéressant. Mais on se demande comment on peut faire appliquer la loi.
Voilà,
on
c'est la question.
Comment peut-on faire appliquer la loi? Ben, si quelqu'un se présente avec des habits non conformes, parce que vous y faisiez référence, il n'y a pas que les tenues vestimentaires dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi les repas, il y a aussi le refus d'aller à certains cours où on parle du Proche-Orient, où on parle de la Shoah. Donc si on ne fait pas appliquer la loi, on baisse les bras. Donc on doit être d'une rigueur totale et absolue. Je crois que là, la pédagogie...
Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, Philippe Ballard? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, une jeune fille qui arrive avec une robe musulmane, on lui dit « tu rentres chez toi ».
Ah bah oui, absolument. Et en plus, on convoque les parents. Et puis là, après, parce que c'est bien beau de donner des directives au recteur, mais il faut que ça suive derrière. Vous vous souvenez du hashtag pas de vague? Quand les professeurs ne sont pas soutenus, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur solution? J'écoutais Didier Lemaire avant-hier. C'est ce prof de philosophie qui exerçait à Trappes et qui travaillait sous protection, sous protection policière, et qui disait mais la situation est de pire en pire. Voilà, tout simplement. Alors est-ce qu'on veut encore beaucoup de Samuel Paty? On ferme aussi, vous faisiez référence à ces sites, mais on peut les fermer, les sites. Et puis ces gamins, ces gamines et leurs parents, parce que les parents.
On va pas fermer TikTok.
Il faut non, mais on peut
fermer des comptes
qui sont à l'origine et qui incitent ces jeunes à faire ça. Ben on les convoque et puis on leur dit écoutez, si vous êtes français, parce que on est là.
Ah oui, ça me va. Oui.
Il y a les Français et ceux qui sont pas français. Non, mais il faut faire un distinguo. Oui. On leur tape sur l'épaule. Vous voulez vivre en France? Ben faut peut-être penser à vous assimiler. Et si vous voulez pas vous assimiler, vous allez vous prendre des amendes. Et puis on peut peut-être toucher aux allocations familiales. Et pour ceux qui ne sont pas français, parce que ça c'est le conjoncturel, mais le structurel, le mal il est plus profond. On arrête le flux migratoire parce que l'origine du problème c'est ça. Et puis on exclut.
Bah non, je suis désolé. Vous avez
dire ça.
Vous avez des Français. Excusez-moi, il y a des Français qui peuvent être musulmans. Hein, je veux dire, ça existe. Donc on va pas expulser les.
Bah
si, vous dites on arrête le flux migratoire. La Française qui porte le voile, vous allez faire quoi? La reconduire à la frontière? Quelle frontière?
Ben c'est bien ce que c'est pour ça que je faisais un distinguo. Je vous dis, il y a ceux qui sont français, donc là, on fait appliquer la loi française, et on arrête on endigue ce flux qui, tout simplement, alimente
au fil des
années. Mais si, parce que si
vous voulez enfant, de corrélation.
Le regroupement familial, vous allez faire venir, donc ce sont des enfants qui vont être scolarisés.
Oui, mais on parle de combien de personnes, là?
Des centaines de milliers, madame. Ah ouais. Estelle Denis, des centaines de milliers. Quel est le flux migratoire?
Des centaines de milliers, ne sont pas...
Il y a 144 incidents.
Non, mais une question. Quel est le flux migratoire en France annuel? C'est 475 000 personnes. Quand vous faites les titres de séjour délivrés, plus les demandes d'asile...
C'est pas que les musulmans, vous savez.
C'est pas que les musulmans, c'est pas que les enfants qui vont au collège ou au lycée. Il y a beaucoup d'étudiants, souvent de pays occidentaux. Dans les 400 que vous mettez en avant, les 400 000, c'était pas que des musulmans venant de pays musulmans.
Non, mais nous, on rappelle.
Simplement, le flux migratoire, c'est tant. Donc, à l'intérieur de ce flux migratoire, évidemment,
mais monsieur Ballard,
c'est pas nous qui disons. Ça vient du Maghreb, ça vient d'Afrique.
Monsieur Ballard, vous me trompez de sujet, je suis désolé. C'est un sujet important, le respect de la laïcité. C'est un sujet très important, le respect de la loi, notamment la loi 2004. Je suis désolé, vous trompez de sujet et vous trompez dans votre argumentation. Il faut au contraire pointer du doigt les faiblesses qu'a le rectorat et qu'a le ministère pour faire appliquer la loi, mais ne pas profiter des signes religieux à l'école pour montrer du doigt les flux migratoires. Ça n'a rien à voir.
Si vous ne faites pas le lien entre les deux, vous n'avez rien compris.
Mais non.
Alors attendez, vous savez quoi? Je voudrais qu'on prenne Patrick. Patrick qui nous appelle de Lyon et qui est employé d'une société logistique. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour à vous tous. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce sujet. Patrick, pour vous, est-ce que c'est bien justement que l'éducation nationale demande une plus grande fermeté aux recteurs?
Effectivement, le respect de la loi sur la laïcité dans l'école est essentiel. Néanmoins, j'aimerais un peu plus de mesures quand même, dans le sens où il s'agit, en fait, de la communauté musulmane, on ne va pas se le cacher, mais il s'agit de provocateurs, en fait. Et quelle réponse peut-on apporter à des provocateurs? Si c'est la provocation, si c'est le durcissement, si c'est les sanctions, je pense pas que ça serve à grand chose en fait. Bien sûr, je vous le répète, hein, je suis pour la laïcité à l'école, j'ai des enfants, je sais ce que c'est, mais simplement, je pense qu'on n'apporte pas les bonnes solutions. Je pense que le dialogue, avant tout, est essentiel, quoi. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun dialogue.
On ne dialogue pas avec des provocateurs, monsieur.
Bah, vous voulez faire quoi les provoquer alors? Je ne sais pas, moi.
Mais non, mais les provocateurs...
Si c'est juste des provocateurs, tu peux dialoguer.
Ben non, ils sont là pour faire avancer une idéologie.
Mais oui, mais vous voulez la faire reculer comment?
Bah, par la fermeté, pas par le dialogue.
Ah bon, bon, bah très bien.
Mais est-ce que
vous
par
avez
exemple,
ça comme solution, bah très bien, on n'avancera pas, on n'avancera pas, et peut-être même que la situation s'empirera malheureusement.
Mais alors attendez, Patrick, c'est quoi votre solution?
Mais j'en ai pas, je suis pas.
Bah vous nous la donneriez,
le ministère,
et ce serait plus simple.
Ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas l'éducation nationale, les maîtresses, les maîtres, les professeurs. Ne dialogue pas avec les élèves, ne dialogue pas avec les familles. Très rarement, très rarement. Il y a vraiment une sorte de cloison, et comme si on admettait le fait accompli et que la seule réponse qu'on peut apporter, c'est la punition. Je pense que moi, je discute, je vais chercher mes enfants à l'école de temps en temps. Ouais. Dans l'école, il y a beaucoup de mamans et de papas musulmans. On dialogue. On essaie de comprendre l'un l'autre. On essaie de se dire, bah oui, mais ça peut-être pas. Bon, effectivement, il y a des gens qui vous diront non.
Mais vous n'êtes pas prof, bon. Patrick, et vous n'avez pas à faire respecter la loi dans l'établissement. Non, après, moi, je comprends votre désir de pédagogie. Et justement, c'est intéressant qu'on soit avec Philippe Ballard, parce qu'il est sur une ligne totalement différente. Philippe Ballard, est-ce que vous entendez ce que dit Patrick, quand même?
Oui, mais c'est le monde des bisounours. C'est pas, mais enfin, qui avons-nous face à nous? Je faisais référence à Didier Lemaire,
des gamins.
Qui parlait. Non, pas que des. Non, j'arrête. Il y a les parents aussi. Vous vous souvenez de Samuel Paty?
Oui.
Qui a mis le feu aux poudres. Bah oui, mais ce sont les parents qui ont instrumentalisé avec une gamine qui était un peu faible, qui a raconté n'importe quoi, et c'est parti. Enfin, on connaît la fin de l'histoire.
Oui.
Donc non, il n'y a qu'une. Seule solution, c'est la fermeté. Enfin, on peut pas dialoguer avec des gens.
Oui, mais vous nous dites pas. Oui, mais vous ne donnez pas de solution, Philippe Ballard, en fait.
Ah, mais si, moi je vous les ai donné.
Bah non.
Moi je vous dis, on arrête. Alors vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord. Il y a le structurel et le conjoncturel. Le structurel, on arrête le flux migratoire.
On est d'accord, mais complètement à l'école.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui sont déjà là? Mais ok, Philippe Ballard, mais qu'est-ce qu'on fait?
Mais non. Les Français, ceux qui n'ont pas français.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait des Français? Ok, qu'est-ce qu'on fait des Français? Une Française qui porte le voile, on fait quoi?
Ben je vous l'ai dit tout à l'heure, on leur tape sous l'épaule. Vous voulez vous assimiler, vous voulez pas vous assimiler, ben écoutez, déjà, si vous venez avec des tenues qui sont pas réglementaires, qui ne respectent pas la loi de 2004, ça sera amende, et puis après, ça sera expulsion, et puis on peut aller plus loin, on peut graduer, on peut toucher aux allocations familiales, et puis dernier point, mais extrêmement fondamental, vous
même si ce sont des Français, même si ce sont des Français,
ah ben évidemment. Mais pourquoi ça serait pas possible? De toute façon, nous, nous réservons les allocations familiales aux Français. Donc, fatalement,
et celles et ceux qui ne touchent pas d'allocations, en fait quoi?
Ah bah s'ils ont des enfants, généralement ils en ont pas qu'un ou deux. Enfin ils en ont
pas. Voilà.
Non,
c'est pas le monde des bisounours. Là mais enfin franchement vous schématisez quand même. Enfin c'est de dire ils ont tous plus de deux enfants.
Allocations familiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a rien. À chaque fois qu'ils proposent ça, c'est du flan. Il y a les APL, il y a tout un tas d'aides sociales. Il y a pas que les allocations familiales.
Mais attendez, ben voilà, c'est conditionné aux ressources. Vous ciblez, Monsieur Ballard, de façon caricaturale, je me permets de le dire, cette communauté musulmane qui serait forcément bénéficiaire à 100% selon vous, à vous écouter.
Sont pas soumis aux... Non, vous vous trompez. Mais pas.
Il y a des conditions de revenus. Non, soumis, il y a des familles, il y a des gens qui ne touchent pas forcément des allocations. Et donc là, ici, vous dites que quoi qu'il arrive, ces gens-là sont forcément bénéficiaires d'allocations.
Ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux, les allocations familiales ne sont pas soumises à conditions de ressources. Les
APL, si on a plus de deux enfants, il peut y avoir des familles avec un seul enfant, des enfants uniques, des familles.
Exactement.
Oui, mais enfin, vous savez.
Et là, vous dites, de façon très caricaturale, que ces gens-là, je vous cite, ont forcément plus de deux enfants. Bravo.
Généralement, ils en ont plus de.
Bravo.
Non, mais je vous renvoie un livre qui s'appelle L'archipel français de Jérôme Fourquet. Il n'est pas chez nous, c'est le directeur de l'IFOP. Et vous reprenez, il y a un passage sur les naissances avec des prénoms à consonance arabo-musulmane. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Jérôme Fourquet. Je vous renvoie ce livre.
Bah merci en tout cas Philippe Ballard d'avoir été avec nous dans Estelle Midi, député RN de l'Oise. On va terminer avec Malik qui nous appelle de Croix dans le Nord. Bonjour Malik.
Oui, bonjour.
Alors Malik, quel est votre point de vue sur la question?
sincèrement, M. Ballard est un utopiste total, sincèrement.
Je ne sais pas si on a déjà dit qu'il était utopiste.
Alors là, le mec, il est là dans la stigmatisation totale. Il est là, pour lui, tous les musulmans sont là, ils bénéficient de la CAF, ne bossent pas, etc. Bon, moi, pour ma part, je suis électromécanicien, je travaille à mon compte, je suis chef d'entreprise. Mon père est d'une des générations qui est venue du bled, comme on dit. Donc, il est né au bled, il a eu beaucoup d'enfants, il a eu 7 enfants, et payé 15 000 euros par an d'impôt sur le revenu, monsieur Ballard. Donc on n'a jamais eu la CAF, on n'a jamais grandi avec la CAF, etc. Donc nous, on est des musulmans et on est français avant tout. Bien sûr, on est français. Tout d'abord, je tiens à le dire, nous sommes français. Et pour l'instant, et pour l'histoire là des tenues, n'oublions pas que nous parlons de collégiens.
Collégiens et lycéens, ouais. Oui. On parle de jeunes, c'est vrai.
Oui, pour le collégien, lycéen, on parle d'enfants. On ne parle pas de personnes adultes. Consentis, etc. C'est des gens qui sont comme dans les années 90. Vous vous souvenez, à l'époque, qu'on stigmatisait les banlieues. Donc les gens étaient plus dans le mode racaille, etc. Les gens cherchaient une identité. Donc là, maintenant, vu que les médias stigmatisent beaucoup les musulmans, donc les gens qui sont à peu près de cette communauté-là essayent de se revendiquer. C'est tout. C'est
donc ça. Pour vous, en fait,
ce n'est pas une question, excusez-moi.
Oui, mais je comprends ce que vous dites.
C'est une question de radicalisme.
Pour vous, c'est de la provocation, en fait. Il n'y a rien à voir avec la religion.
Exactement, c'est juste de la provocation. C'est des jeunes, excusez-moi du terme, c'est des jeunes merdeux qui sont là, qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. C'est juste de la provocation. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
Maintenant, c'est pas des merdeux, ils se cherchent une identité, ils sont pile dans l'âge, on cherche une identité, ça passe par l'événement, il y a l'influence des parents qui ont une religion.
C'est pas seulement ça, Emmanuel.
Excusez-moi, madame. Maintenant, je vais vous expliquer. L'éducation des parents se fait, pour moi, personnellement, se fait de 0 à 16 ans. Le reste se fait à l'extérieur. Les parents n'ont plus aucun impact sur les enfants à partir de 16 ans.
Ouais, ça c'est votre avis. Non,
après, je suis d'accord. Voilà, faut arrêter.
Je voudrais juste entendre. Attends, attendez, pas tous en même temps. Attendez, Malik, deux secondes. Alors, allez-y, Laurent.
Je voudrais répondre faire une objection à Malik, c'est-à-dire que faut pas non plus idéaliser les enfants, c'est-à-dire que il y a des ados qui sont aussi des militants. Le gamin qui mais le gamin qui fait une photo de la musulmane non voilée pour la faire chanter en lui disant attention si tu ne te voiles pas, tu vas avoir des problèmes, c'est peut-être un ado, mais c'est aussi un militant islamiste.
Mais alors peut-être il faut faire le distinguo, et c'est-à-dire en fait c'est ce que disait Emmanuel Dancourt, discuter, faire preuve de pédagogie, parce que le petit provocateur, voilà, qui fait ça,
mais pour celui qui est
celui-là, différents leviers, tu l'exclues et tu le fais revenir derrière.
Je dis pas qu'il faut mettre, tout le monde dans le même panier, mais là, clairement, quand on a affaire à des militants islamistes qui sont là pour installer une idéologie à l'école et qui ils peuvent faire ça très tôt et ça n'attend pas le nombre des années, là, on n'est plus dans le dialogue, on est dans la fermeté.
Après, peut-être qu'un rappel à la loi au tout début de l'année scolaire, ou même au retour de chaque vacances, serait peut-être pas mal pour rappeler aux élèves, justement, quels sont leurs droits, mais aussi quels sont leurs devoirs. Quelle est la loi de 2004. Vous avez des messages, Alfred Orange.
Oui, et notamment un message très éclairant de Sophie qui nous écrit depuis la Guadeloupe, où elle dit ça fait plus de 30 ans que là-bas, l'uniforme est obligatoire dans les, les maternelles, dans les primaires, dans les collèges. C'est vrai aussi pour la Martinique et la Guyane. Donc voilà, c'est assez éclairant. Elle dit voilà, personne ne se plaint, et ce serait peut-être une manière de resserrer la cohésion sociale entre élèves. Là-bas, ça se passe en tout cas sans problème. Et une partie du budget de rentrée est consacrée à l'achat d'une nouvelle uniforme.
On va remercier Malik d'avoir été avec nous sur ce débat. Et puis on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Tenue communautaire à l'école, doit-on vraiment s'inquiéter?
C'est le plébiscite, vous répondez oui à 90%, non à 10%.
Ah oui, donc c'est une très large majorité de oui.